cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 16 novembre 1995.
Continuons cette recherche. Nous avions vu la dernière fois que la finalité de la nature, on se pose la question, y a-t-il une finalité dans la nature? C'est-à-dire, y a-t-il une finalité dans le mouvement? Puisqu'on part du mouvement. Est-ce que le mouvement, par définition, n'est pas quelque chose qui est purement relatif? Puisqu'on passe de A à B en respectant C, les trois. À première vue, il semblerait qu'il n'y a pas de finalité dans le mouvement. Le mouvement. important de découvrir ça. Parce qu'autrement, je reste dans le schéma du mouvement artificiel et c'est ce qui conduit au platonisme et au néoplatonisme. Or, on est toujours un peu néoplatonicien. On a beaucoup de peine d'être aristotélicien, c'est-à-dire réaliste jusqu'au bout, jusqu'à la causalité matérielle. On croit que le réalisme, c'est la cause efficiente. On croit que le réalisme, c'est la cause formelle. Non. Le réalisme provient toujours de ce primat de la cause matérielle quand il s'agit du mouvement naturel. Ce qu'Aristote a très bien compris. Il l'a très bien compris quand il a recherché la question de l'ordre, de l'axe et de la puissance. Donc il y en a quelque chose qui pour nous est très important à saisir. Et c'est pas commode de saisir la causalité matérielle parce que il y a en nous une résistance très grande, intellectuelle, c'est très curieux du reste. Ce serait intéressant de voir pourquoi nous avons tant de peine de découvrir la causalité matérielle. Et que si facilement nous mettons le primat à la cause formelle ou à la cause efficiente. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui met le primat à la cause efficiente et à la cause formelle. Parce qu'on est en plein platonisme. Et on a une peine énorme à découvrir la cause matérielle. Beaucoup plus difficile que pour Aristote. Quoique Aristote se trouvait derrière Platon. Et Platon avait un succès monstre. C'est Platon qui a eu le succès. Et c'est le néoplatonisme qui a du succès. Toute la philosophie européenne, elle est dans le courant néoplatonicien. Ça, c'est sûr. Mais c'est Heidegger qui le dit, et il a raison là-dessus. C'est que la philosophie européenne est une glose marginale du néoplatonisme. Ça n'a rien inventé de très grand. Et la source, c'est vraiment la Grèce. Ce que disait d'une façon magistrale ce dominicain Ramurez à Fribourg. J'ai lu toute la philosophie européenne. Et je n'ai trouvé aucun principe. J'ai trouvé des descriptions très intéressantes. Il n'y a plus de recherche des causes. Et donc, mon intelligence n'a pas de nourriture. Elle est errante. Vous voyez, tant que vous ne découvrez pas la cause matérielle, votre intelligence sera errante. Parce que c'est la cause matérielle qui est la cause errante. Alors, il faut l'objectif, il faut la découvrir dans la réalité pour ne pas la garder en nous. Parce qu'au fond, il y a deux tabula rasa, la matière et l'intelligence possible. Ce sont les deux sources du devenir. Le devenir physique et le devenir spirituel. Et c'est ça qui me semble extrêmement important à saisir pour Aristote. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on lit Aristote un peu en néoplatonicien. C'est ce qui se fait constamment. Alors lire Aristote en néoplatonicien, ce n'est plus découvrir Aristote, c'est le replonger dans son maître. Or, tout l'effort d'Aristote était de sortir de Platon. Parce que quand on était 20 ans sous le régime de Platon, vu ce qu'est Platon, cette intelligence géniale, on ne peut pas nier. C'est très difficile d'en sortir. Et Aristote n'a pas voulu en sortir en claquant les portes. Ce que nous n'en ferions. Et il est beaucoup plus facile. séparément. On peut pas les séparer. On les distingue, on les sépare pas. De là, vous découvrez la détermination du mouvement naturel et sa finalité. Et vous découvrez immédiatement aussi le hasard. Dans le monde physique, le hasard existe nécessairement et il exprime le primat de l'indétermination de la cause matérielle. Il exprime le primat de la cause matérielle dans l'ordre du devenir. Le hasard, c'est justement ce qui fait qu'il n'y a plus de finalité. Or, il n'y a plus de finalité lorsque la forme ne détermine pas totalement la matière et que la matière peut alors être victorieuse à la forme. C'est ça le hasard. Vous retombez dans la cause errante. Donc, ce problème très important de découvrir la finalité propre de la nature. La nature, forme et fin. Il faut découvrir la différence qu'il y a dans l'affirmation de la nature forme, morphée, et de la nature fin. Quand je dis que la nature est forme et que la nature est fin, je n'affirme pas la même chose, mais j'affirme la fin de la nature à partir de la forme. Je n'ai pas d'expérience directe de la finalité de la nature. Ça explique beaucoup de choses, ça aussi. Parce que très facilement, la finalité de la nature est perdue dans l'indétermination de la nature. Ou très facilement, la finalité de la nature est perdue dans la nature forme. Mais il y a deux obstacles, autrement dit. Pour découvrir la nature fin, il faut dépasser la matière. Il faut dépasser la forme. Mais s'il ne faut pas considérer la fin comme la synthèse de la matière et de la forme, non. Il faut la considérer comme ce qui donne à la nature son dynamisme propre. C'est toujours la fin qui attire. Et tant que je n'ai pas saisi la fin, la nature fin, je ne peux pas saisir ce dynamisme propre du mouvement naturel. Et c'est la différence entre la forme, la nature forme et la nature fin. Mais il faut bien comprendre que je ne saisis la finalité de la nature que par la nature forme. Il n'y a que dans l'ordre éthique où je saisis la finalité directement par moi-même. Et dans la métaphysique, l'être en acte. Mais je ne saisis pas la finalité comme quelque chose de propre, c'est-à-dire quelque chose d'immédiat dans la philosophie de la nature, de la matière. La matière est trop puissante pour saisir la finalité directement. C'est là où je vois combien la matière est victorieuse dans le monde physique. Elle est victorieuse, elle a une espèce de puissance royale. Elle est première. Alors, elle est première génétiquement. Mais dans l'ordre du devenir, l'aspect génétique l'emporte toujours. Elle a un très gros pouvoir. Vous voyez, ce serait très intéressant de voir dans ces iones la proclamation de cette victoire de la cause matérielle. Dans ce fameux combat céleste, où on voit comment la grosse résistance, c'est de ne pas sortir de la matière, de se laisser enfouir par la matière.
Matière,
rayonne par son efficience, elle rayonne par sa finalité, mais toujours dans l'immanence. Vous voyez qu'il y a donc deux immanences, l'immanence fondamentale, l'immanence formelle. L'immanence fondamentale de la nature, c'est la matière. L'immanence formelle de la nature, c'est la forme. Et alors, ce serait très intéressant de voir comment on a essayé de dépasser cette immanence formelle. Chez le vivant qui se meut. Le se movere. Voilà le premier dépassement. C'est le vivant. Le vivant apporte une nouvelle immanence, mais en même temps apporte une victoire sur l'immanence. Une réalité naturelle est mue. Tandis qu'au contraire, le vivant se meut. Et alors, le vivant se meut d'une manière tellement forte qu'on va pousser et on va trouver l'évolution. Et le problème de l'évolution, c'est d'essayer de comprendre comment le vivant se meut tellement bien qu'il est victorieux de la forme et qu'il arrive à faire une nouvelle espèce. On ne sait pas trop comment, mais c'est parce qu'il se meut. Donc c'est la victoire de l'efficience sur la forme. L'évolution, c'est ça. C'est très curieux et c'est très intéressant à ce point de vue-là d'étudier philosophiquement. Il faut étudier philosophiquement le point de vue de l'évolution. Avant que l'évolution meure. Hein, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a une lutte terrible par rapport à ce point de vue-là. Et c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir dans quelle mesure l'évolution va demeurer ou au contraire s'éteindre. On est en face de ce combat. Et alors c'est intéressant aussi de voir le passage de la philosophie de la matière et la philosophie du vivant. Vous voyez, la philosophie du vivant, c'est la victoire de la vie sur la matière. On se meut. Et donc la victoire de l'individu sur la matière. Il se meut. C'est-à-dire, c'est la découverte d'une victoire qui provient de la cause efficiente sur la matière, évidemment par la forme. Mais si je reste dans la philosophie de la matière, je suis toujours en présence de celui qui est mu. Alors, une fois que j'ai découvert le point de vue des principes immanents des réalités physiques, je peux découvrir comment les réalités physiques se manifestent par le mouvement. Mais le mouvement est au point de départ. Et le mouvement est regardé dans la lumière des principes. une résistance. Mais ça va me taire non cuite. Mais c'est un exemple qui immédiatement, vous voyez. Et je vous affirme que faire cette expérience, ça fait qu'on avale beaucoup mieux la pomme de terre. Parce que l'intelligence nous donne là une possibilité de dominer la résistance. Alors, les cinq sens sont présents dans cette expérience. C'est pour ça que cette expérience est tellement fondamentale. Elle est très très forte, cette expérience, ce qui est mieux. C'est vraiment l'expérience radicale de l'homme. On y revient tout le temps. Une fois que j'ai découvert les principes propres de ce qui est mu, matière, forme, efficience finale. Il n'y a pas de causalité exemplaire dans le monde physique. La causalité exemplaire apparaîtra et apparaît dans la causalité dans le point de vue du mouvement artificiel. Alors là, c'est tout de suite. Mais est-ce qu'il y a, c'est la question que je peux me poser, y a-t-il en plus une fusis forme exemplaire? Aristote l'a découvert, et nous reverrons là-dessus, sur les corps célestes. Les corps célestes sont cause formelle exemplaire. Mais nous savons que c'est pas juste. Pour nous, et c'est peut-être là le progrès de la science moderne qui nous oblige de dépasser ça et de voir que il n'y a pas de cause exemplaire dans le monde physique. Au sens strict, il y aura une hiérarchie, on la verra. Mais de cause exemplaire, posons le point d'interrogation, nous y reviendrons. Je peux me poser la question, je ne la découvre pas immédiatement. Mais je découvre ce mouvement dans toute sa force. Et je découvre alors, dans la découverte, des quatre causes. La cinquième, point d'interrogation. Je peux regarder le mouvement. Le mouvement naturel est un effet. Donc le mouvement naturel est relatif à sa cause. Si donc je sépare le mouvement de sa cause pour le regarder pour lui-même, je tombe dans la relativité absolue. Et ça, je crois que c'est important pour nous de le saisir. Vous voyez, je suis parti de ce qui est mu. Donc il y a ce qui est mu. Donc, je n'ai pas séparé le mouvement. J'ai regardé la réalité. La réalité physique, c'est ce qui est mu. Mais ça existe. Et mon jugement part de là. Je découvre la nature comme principe propre. Et je vois que l'effet propre de la nature, c'est le mouvement immanent de la réalité physique. Un mouvement immanent. C'est le mouvement. Et donc, je peux regarder ce mouvement pour lui-même comme un effet relatif à la cause. Ce mouvement naturel est déterminé. La nature implique une détermination. nécessairement dans le mouvement naturel, le hasard. D'où nécessairement dans le mouvement naturel, une imprécision qui demeure. Il y a bien une philosophie de la nature, mais qui n'est pas parfaite. Qui demeure toujours avec un point d'interrogation, parce qu'il peut toujours y avoir des tremblements. Il peut y avoir l'indétermination de la victoire de la matière. D'où cette expression que dit Aristote, ut in pluribus. La plupart du temps, c'est comme ça. Vous comprenez, la plupart du temps empêche la nécessité absolue. Il ne peut pas y avoir donc un déterminisme absolu dans la nature. Parce qu'il y a la cause matérielle. La cause matérielle empêche le déterminisme absolu. Mais si j'abstrais le mouvement de ce qui est mu, et je veux regarder le mouvement uniquement en lui-même, je dirais le mouvement est relatif. Il est relatif à ce qui est le point de départ et le terme du mouvement. Donc, je suis là dans une relativité absolue. Et si je sépare le mouvement de ce qui est mu, c'est-à-dire de la cause matérielle, j'aurai la tentation de regarder le déterminisme absolu. Mais le mouvement séparé de sa cause matérielle, donc séparé de ce qui est, et pris pour lui-même, conduit au déterminisme, à la relativité absolue. Mais dans la relativité absolue, un déterminisme. Les deux choses peuvent aller ensemble. Et même, je dirais, c'est la relativité absolue qui maintient ce déterminisme. Parce que dès que je vois la réalité qui existe, apparaît la cause matérielle et apparaît la finalité. Si je sépare le mouvement de la cause matérielle et de la finalité, j'ai la relativité absolue et le déterminisme absolu. Donc, il est intéressant et important pour nous de saisir comment la philosophie de la nature me donne une signification nouvelle du mouvement. Le mouvement naturel dépend de la phusis. Il est déterminé. Il est finalisé. Mais d'une finalité qui est absorbée par la forme. Et une finalité qui peut toujours manquer à cause du poids de la matière. À cause de la force de la matière, d'où la possibilité du hasard. Mais c'est toujours important, une fois qu'on a saisi le principe, de voir comment cela se réalise. Et comment cela se réalise, c'est que la nature est toujours en mouvement. Il n'y a pas de repos dans la nature pure. Parce que le hasard n'est pas un repos. C'est le manque d'une finalité. C'est la victoire de la matière. Et la matière est errante. Donc le hasard permet un mouvement non déterminé, non organique, non organisé. C'est propre du hasard. Et je ne peux plus rien dire quand je suis en face du hasard. Le hasard est non scientifique. C'est la limite de l'intelligibilité. Et c'est le poids de la matière. Et le hasard existe toujours dans le monde physique. pas de repos.